Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Avec moi dans mon salon, Charlotte Cher, que j'accueille, qu'on va découvrir à travers cette émission. Donc en fait, Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'ouvrir son regard sur le monde à travers des parcours de vie, à travers des voyageurs. On y parle d'ailleurs, on y parle de pays du monde, on va parler de vélo dans cette émission. J'aime bien donner la parole à des réalisateurs, des écrivains, des conférenciers, des voyageurs que je rencontre sur les routes ou ici, dans mon salon. Ce qui est ton cas, Charlotte. Donc, je sais peu de choses encore de toi, si ce n'est que tu travailles dans une association de solidarité internationale et que tu voyages en vélo. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de te rencontrer et on va revenir peut-être à toi, peut-être la première fois que tu as eu envie de partir ou voilà, présente-toi, présentation libre pour commencer.
Alors, merci Alexandre de m'interviewer et de prendre ce temps avec moi pour apprendre à me connaître. Donc oui, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, je travaille donc pour cette association de solidarité internationale. Et j'ai une particularité, c'est que j'ai une sclérose en plaques qui a été diagnostiquée quand j'ai eu 28 ans. Alors, cette sclérose en plaques a mis du temps à être diagnostiquée. J'ai eu des problèmes de santé à peu près pendant plus de 10 ans. Voilà. Et à cette époque, pendant ces 10 années, c'est quand j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel. Et donc, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration. Parce que mon rêve était d'ouvrir un hôtel particulier.
Quand tu dis hôtel particulier, c'est un peu ce qu'on peut voir sur les routes du monde à travers un guest house, quelque chose comme ça, ou qu'est-ce que c'est qu'un hôtel particulier ?
Alors un hôtel particulier, comme je le voyais, c'était... Alors moi j'étais fascinée par Paris, je viens de la campagne alsacienne, alors je suis née à Strasbourg mais j'ai grandi dans la campagne alsacienne, et Paris pour moi c'était le cinéma, c'était les stars, la mode, etc. Et quand j'ai commencé mes formations dans l'hôtellerie, ben forcément les plus beaux hôtels en France sont à Paris. Et donc je rêvais de créer mon hôtel particulier à Paris, donc un petit hôtel avec une dizaine de chambres qui accueillait des acteurs, plutôt du monde culturel en fait. Je rêvais vraiment d'ouvrir sur le monde culturel et chouchouter mes clients.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Et il s'est passé que j'ai eu ces problèmes de santé en fait, qu'on ne savait pas d'où ça venait. Donc à chaque fois, c'était des périodes de stress, on va dire, où j'étais immobilisée. Alors j'ai travaillé d'abord dans un hôtel en Alsace, donc c'est là où j'ai fait mes marques. J'ai travaillé pendant 5 ans, je suis très vite passée, donc j'ai fait ma formation dans cet hôtel et je suis très vite passée chef de réception. Et puis à un moment donné, j'avais plus de force en fait, j'arrivais plus à travailler. J'enchaînais 50 heures par semaine, je donnais tout, c'était ma vie parce que c'était ma passion. Accueillir le client, m'occuper de lui, me donner au client, enfin c'était ma passion. Et puis et à un moment donné, je pouvais plus. Et donc j'ai décidé, je me suis dit, ok, je pars à Paris en fait, je pars maintenant à Paris. J'y vais, je rentre dans le groupe Accor du coup. Du coup, je suis allée pendant un an à Versailles, travailler chez Accor. Et au bout d'un an, en fait, j'allais pas bien. Je dormais très peu. Le changement de vie entre la vie alsacienne tranquillou en campagne et arriver en ville à Paris où on connaît personne. Et en fait, si on veut avoir une vie sociale, c'est difficile quand on bosse dans l'hôtellerie-restauration parce que on passe son temps à travailler. Donc au bout d'un an, j'allais pas bien. J'ai un médecin qui a diagnostiqué que je faisais une dépression, en fait. Et je me suis dit, bah non, moi c'est pas possible, je fais pas de dépression. Je suis rentrée à Strasbourg, j'ai pu continuer à travailler dans le groupe Accor. Au bout de 6 mois, de nouveau, problème de santé, je tenais pas debout, c'était pas bon, mon médecin m'a mis en arrêt maladie. Et heureusement, c'était un CDD. Donc en fait, j'ai dit, à cette époque-là, pour moi, c'était impensable d'accepter d'être malade. Donc j'ai dit non, je refuse l'arrêt de maladie, j'attends que mon CDD se termine et on verra après. Mon CDD s'est terminé et là, pareil, j'ai continué à me dire, bah non, en fait, j'ai pas de problème de santé, je suis pas malade, je continue à bosser dans l'hôtellerie, etc. Après ça, j'ai bossé 3 ans dans O'Hara, à Strasbourg, qui est un hôtel bien connu. Et au bout de 3 ans, rebelote. Alors à ce moment-là, le métier, ça faisait presque 10 ans que j'étais dans l'hôtellerie. Je voyais que mon rêve d'ouvrir un hôtel particulier s'effaçait. Enfin, que je commençais à approcher la trentaine. Et je me disais, bon, c'est la vie parisienne, c'est pas pour moi. Gérer un hôtel, je pense qu'avec mes problèmes de santé, c'est pas pour moi non plus. Il faut que j'aie une vie plus tranquille. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la nature, à l'environnement. Parce que notamment, quand j'habitais à Versailles, j'habitais dans un appartement qui faisait 15 mètres carrés. Et j'étais choquée de réaliser qu'en fait, dans un 15 mètres carrés, j'avais plus de déchets que de meubles ou que de choses qui m'appartenaient. Et je me suis dit, c'est pas possible de vivre avec autant de plastique. Et donc, je m'étais intéressée à plusieurs associations qui sensibilisaient les gens à consommer mieux. Et donc, du coup, à Strasbourg, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais m'engager à Zéro Déchet Strasbourg. Et à partir de là, j'ai découvert en moi un potentiel de sensibilisation écologique et aussi d'intérêt, de mieux consommer, de changer de mode de vie. À partir de là, à côté de mon travail dans l'hôtellerie, j'ai commencé à changer ma manière de vivre, donc déjà de me déplacer. Donc j'ai décidé de me déplacer qu'à vélo, que j'ai adoré. Donc j'ai découvert à ce moment-là vraiment ma passion pour le vélo, qui est en fait une passion un peu cachée en moi, parce que mon père était cycliste et a fait beaucoup de compétitions de cyclistes. Et petite, j'étais admirative et je le suivais partout. Et je me suis rappelée que j'adorais ça, le vélo. Pour moi, c'est un moyen de liberté. C'est un transport qui permet de se sentir libre. Voilà. Et puis, donc, j'ai travaillé au Hara et au bout de 3 ans, rebelote, problème de santé. À ce moment-là, je faisais une reconversion professionnelle, en plus à côté du boulot, parce que je savais que je pouvais plus continuer dans l'hôtellerie. Et donc, j'ai réussi, avec mon CPF, de me former dans la communication pour faire chef de projet numérique. Et à partir de là, j'ai pu avoir une évolution professionnelle pour faire chargée de com dans le groupe hôtelier où je travaillais.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, donc on va parler de ce voyage à vélo en Suède, mais je vais m'intéresser aussi à ta maladie. Est-ce que tu as essayé de... Est-ce que déjà c'est quelque chose que tu avais dans tes antécédents familiaux? Est-ce que tu as essayé de comprendre le pourquoi du comment? Et j'aimerais aussi que tu me parles de cette quête de guérison. Hein, tu dis que souvent, quand on se retrouve face à une maladie, c'est là qu'on fait des changements de vie assez radicales dans l'idée de se prendre en main, tout simplement. Maladie, le mal a dit, donc souvent il y a quelque chose de l'ordre héréditaire ou psychologique, ou en tout cas lié à un dysfonctionnement dans nos modes de vie. Et c'est vrai que des fois, changer complètement ou faire un pas de côté permet de trouver déjà un sens différent et un mieux-être.
Oui, oui, exactement, oui. Alors c'est long, c'est un chemin de vie en fait. Savoir ce que le mal me dit, je pense que ça va être l'histoire de toute ma vie qui me reste à vivre. Ça fait maintenant depuis 2019 que j'ai le diagnostic, donc plus de 5 ans. Que je suis sur ce chemin. Donc effectivement, j'ai changé mon alimentation. Après le voyage à vélo, grâce au voyage à vélo, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de grand chose pour vivre. Donc je me suis rendu compte que j'ai besoin de minimalisme. J'ai besoin de réduire un maximum de choses. C'est pour ça que depuis maintenant 2 mois, j'habite à Strasbourg. J'ai quitté Strasbourg. Niveau matériel, je manquais de rien. J'ai décidé de me débarrasser de pratiquement tout pour retrouver une chambre de 10 mètres carrés dans une colocation avec 6 personnes dans la vallée de la Bruche. Donc voilà en quoi ça m'amène déjà vers le chemin de la sobriété.
Que tu avais déjà à travers les valeurs de l'écologie que tu as l'air de nourrir. Hein. Tu parlais avant de zéro déchet, hein, de te mettre au vélo. Donc même avant d'être diagnostiqué avec une sclérose, tu avais déjà aussi quelque part ce côté un peu engagé et militant.
Oui, tout à fait. Pour faire le lien avec ta question, si j'ai des personnes dans ma famille, génétique dans ma famille, personne n'a la sclérose en plaques, mais j'ai un terrain d'une famille plutôt anxieuse, où j'ai grandi dans un univers plutôt anxiogène. Et du coup, comme toute personne qui a pu grandir dans un environnement peut-être pas adapté ou peut-être pas sécure, on grandit, on a besoin de retrouver de la liberté automatiquement. Et je pense que l'écologie est venue à moi comme ça. J'avais besoin de me retrouver dans un espace où j'avais besoin de minimiser le moins pour retrouver le mieux, en fait.
Ouais, en anglais, on dit « less is more ». Ouais, mais je veux bien aussi, parce que souvent, quand on prend conscience, hein, ou quand on est un peu militant, ou quand on a envie de changer son mode de consommation, c'est souvent suite à une observation du monde dans lequel on vit. Donc je veux bien que tu me fasses aussi peut-être un petit peu le constat de ce que tu observes autour de toi. En plus, toi qui bossais dans le milieu de l'hôtellerie, où là, il y a quand même beaucoup de gaspillage dans ces environnements-là.
Oui, alors c'est pour ça aussi que j'avais l'intention de quitter l'hôtellerie. J'étais pas à ma place. J'ai essayé de changer les mentalités à mon échelle, mes équipes, mes collègues, les collaborateurs. J'essayais à chaque fois d'apporter, de faire ma part comme le colibri, mais clairement, jusqu'en 2019, puisque j'ai travaillé jusqu'en 2019 dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de prise de conscience, il n'y avait pas d'écoute de la part des dirigeants. Aujourd'hui, on peut constater, je pense, qu'il y a de plus en plus d'écolieux. Il y a un label qui s'appelle l'écolabel qui, justement, propose un cahier des charges où les hôtels doivent vraiment suivre des critères stricts. Mais c'est encore trop petit à l'échelle de l'hôtellerie de luxe qu'il y a dans le monde. Ne serait-ce quand on regarde, il y a une vidéo il n'y a pas longtemps que Hugo Clément a faite. Il était à Bali, qui nous montre un hôtel soi-disant écolo et qui nous montre la face cachée derrière où les déchets sont sur une fosse ouverte et c'est les vaches qui se nourrissent de plastique. Enfin, c'est hallucinant. Donc aujourd'hui, le constat que je peux faire, c'est que ça va trop lentement.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire aussi hein, par rapport au tourisme, notamment le tourisme de masse. Donc aujourd'hui, ça ne va pas être l'objet de cette émission radio. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, voyager, ne pas voyager, prendre l'avion, ne pas prendre l'avion. En tout cas, toi, tu as fait le choix de la mobilité douce à travers ton vélo. Est-ce que pour toi, tu y vois un lien thérapeutique aussi par rapport au diagnostic qui a été fait sur ta sclérose en plaques?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait ce voyage à vélo. Pendant 3 semaines, j'étais sur mon vélo. Alors, ce n'était pas des vacances. C'était une discipline parce qu'il fallait tenir sur les kilomètres et sur la distance et sur mon objectif. Donc, mon objectif, c'était d'aller de Malmö à Oslo. Donc Malmö qui est sud-Suède et Oslo qui est donc en Norvège, la première ville au nord de la Suède, en Norvège. Donc il faut une discipline, c'est-à-dire il faut connaître son corps. Il faut avoir une alimentation qui nous corresponde parce que si on mange n'importe quoi et si on est obligé de s'arrêter... on n'atteint pas son objectif, etc. Et en ça, pour moi, c'est totalement thérapeutique parce qu'on est en plein air, on est au contact de la nature. Quand on est dans une ville où on est toute la journée dans un bureau, on rentre le soir, on est chez soi à la maison, on n'est jamais au contact de la nature. On est donc, pour moi, sclérosé dans un monde fait de plastique, de métal et de pollution. Et donc sur le vélo, on est presque 8 heures en plein air et on est en mouvement. Pareil, pendant longtemps, on disait que quand on est malade ou on est atteint d'une maladie neurodégénérative, il ne faut pas bouger, il faut se reposer un maximum. Oui, il faut se reposer, mais il faut équilibrer ce repos avec une action, avec une activité sportive. Parce que si on ne bouge pas, le corps se sclérose en fait.
Tu peux me parler des symptômes de la sclérose, présenter un petit peu cette maladie qui est, on a tous entendu, mais moi personnellement je ne sais pas de quoi il est réellement question.
Tout à fait, oui, c'est vrai que ce mot, alors déjà il est très moche, hein. Je déteste parler de ce mot, parce que j'aime pas le dire, mais bon, on n'a pas le choix. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie neurodégénérative, donc c'est-à-dire que c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Son fonctionnement, c'est notre système immunitaire qui attaque notre propre système nerveux. Donc c'est les anticorps qui fonctionnent mal, en fait, qui sont mal ordonnés, qui vont attaquer la myéline. Donc la myéline, c'est comme le plastique d'un câble électrique qui entoure le câble. C'est en fait une membrane qui entoure nos neurones pour protéger nos neurones. Donc le corps est bien fait. Sauf que quand on a une sclérose en plaques, ce sont nos anticorps qui vont aller attaquer cette myéline et donc qui vont dédommager jusqu'à toucher les neurones. Et donc ça va atteindre le cerveau, créer ces plaques dans le cerveau. Et voilà, on dit qu'il y a autant de personnes atteintes de la sclérose en plaques que de sclérose en plaques parce que personne n'a les mêmes problématiques, en gros. Mais il existe deux formes quand même. Qui ont été définies. Donc il y a la forme récurrente, rémitante. Donc la forme récurrente, rémitante, c'est on va dire la forme la plus douce, entre guillemets, parce qu'elle se diagnostique plus jeune, donc autour de 30 ans. Et donc ça va venir par poussée et par rémission, qui peut être donc stabilisée grâce au traitement, et dont les problématiques neurologiques qu'on va avoir avec les poussées peuvent être guéries ou ne peuvent avoir moins de conséquences graves. C'est-à-dire qu'on va, dans les pires des cas, on va pas forcément être invalidé ou immobilisé. Après, il y a l'autre forme qui est la forme progressive, qui est plus grave, qui est plutôt diagnostiquée quand on est plus âgé. Parce que il n'y a pas eu de traitement en fait avant qui a pu stabiliser, et donc là en fait c'est le système nerveux va forcément se détériorer, voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir.
Quand tu apprends que tu es malade, qu'est-ce qui se passe en soi? Comment se passe cette mise en mouvement? Comment est-ce qu'on accepte? Comment est-ce qu'on réagit quand on a... T'as 27 ans hein, quand tu l'apprends, c'est ça? 28 ans quand tu l'apprends, donc 28 ans, donc tu sors de... Enfin, tu te rendais bien compte qu'il y avait quelque part un dysfonctionnement suite à tes excès de fatigue hein, dans ta vie professionnelle. Tu apprends que tu tombes malade et après, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait?
Alors, pour parler de mon cas, moi, j'avais beaucoup de chance parce que j'ai été entourée de proches professionnels qui s'occupaient justement de la sclérose en plaques. Donc c'est un pur hasard. Je ne sais pas ce que le destin m'a apporté. Mais de mes souvenirs, en fait, j'ai peu de souvenirs parce que j'étais enveloppée de ce cercle médical, donc j'avais un peu l'impression que ma maladie m'appartenait pas. Et mon cerveau, peut-être par système de protection, préférait faire ce déni. Donc j'ai peu de souvenirs, j'ai du mal à dire qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là, parce que je me suis laissée embarquer. Voilà, j'ai donné confiance au médecin et pour moi c'était comme avoir un grain de beauté à enlever. Après, j'ai dû me séparer de... La vie a fait que je me suis séparée de ce milieu médical, de ses proches, de ce monde médical. Donc je me suis retrouvée seule face à la maladie il y a environ un an et demi, avant mon voyage à vélo en fait. Et donc, le destin a fait que j'étais sur le vélo et c'est sur le vélo que j'ai commencé à me rendre compte que oui, j'avais une maladie... et qu'il fallait vivre avec ça. L'apprendre si jeune, c'est sûr qu'il y a une tristesse, en fait. En fait, il y a une tristesse. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi prendre un traitement? Pourquoi se poser ces questions? Alors que moi, j'ai envie de défendre l'écologie, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de... Mais en fait, non, en fait, il y a des... Une fois par semaine, ben voilà, je suis au lit parce que je suis fatiguée, et je suis épuisée à un tel point que je peux rien faire. Et en fait, il faut... Enfin, pourquoi, ouais, il faut l'accepter.
Mais ce voyage en vélo a eu lieu parce que tu étais diagnostiquée sclérose en plaques, donc il y avait quand même cette envie de mise en mouvement.
Oui, tout à fait. Alors... Le voyage à vélo, il y avait cette envie de mise en mouvement, mais il y avait cette envie aussi vraiment de découvrir la Suède. Et alors, c'est tout con, mais moi je m'étais dit, en fait ce qui serait génial, c'est d'aller rencontrer Greta Thunberg. Et donc, en fait ce voyage, il était un peu, ouais mais en fait la maladie, ok. Mais non, mais en fait moi je vais en Suède pour rencontrer Greta Thunberg et penser à moi et voyager et voilà. Il y a comme un petit... Enfin, je sais pas si... Voilà, c'est ma personnalité, mais la maladie vient, vient oui, en fond, mais j'essaye toujours de trouver une autre excuse.
C'est aussi une manière d'être résilient c'est et ça. Puis de trouver quelque part une direction et y aller, quoi. Je crois que le but de la vie, c'est de vivre des expériences, quelles qu'elles soient. Ouais. Et dans le mouvement, dans le voyage, je crois que c'est là où l'être se nourrit de manière plus intense, c'est bon, plus intense.
Totalement. Bah, c'est exactement ça. En fait, le voyage, grâce à ce voyage, je me suis rendu compte que ben ça guérit parce qu'il y a cette mise en mouvement. Et surtout, j'ai fait ce voyage seule, en solitaire. Et c'est la première fois de ma vie que je voyageais seule autant de temps, à organiser seule. Et en fait, enfin, c'était magique.
Mais ça, c'est presque initiatique aussi de voyager seul. Ouais. Hein. C'est vrai qu'on peut aborder ce sujet-là. Donc, tu es partie en vélo seul. Donc, comment est-ce que tu t'y es prise? Est-ce que tu as eu ces peurs de voyager seul? Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire les choses tout seul.
Alors, c'est le destin un peu qui, à la base, je rêvais de faire ce voyage. Enfin, je projetais de faire ce voyage avec mon ex-compagnon de l'époque. Puis il y a eu séparation entre temps. Et en parallèle, j'ai une de mes meilleures amies, pur hasard, qui, quand je lui annonce que ben, je projetais d'aller de faire ce voyage à vélo en Suède, m'annonçait qu'elle aussi, elle organisait un voyage en solo en France parce que post-Covid, elle avait besoin de revoir toute sa famille et étant très sportive et étant fan de podcasts de grands sportifs, elle avait trouvé vraiment cette passion du côté du sport. Et moi, c'était plutôt cette passion du côté initiatique. Et donc, on s'est retrouvés... alors, elle est de Suisse et moi, strasbourgeoise. On s'est retrouvés un peu en parallèle à organiser nos voyages en solo. Donc, en fait, il n'y a jamais eu aucun moment j'ai eu peur de quoi que ce soit. En fait, ça a été enthousiasmant de se dire, ben j'organise un voyage comme ma meilleure amie et on se donnait des tips ensemble. Et finalement, je n'étais pas vraiment seule pendant mon voyage. Elle avait fait un voyage de 5 mois, moi, de 3 semaines. Et mon voyage entrait en parallèle à pendant qu'elle voyageait. Donc, c'est comme si elle m'avait aussi initiée à ça.
Donc, tu pars de Suède pour aller en Norvège, hein, c'est ça? Ou de Norvège pour aller en Suède?
Mon rêve était de partir en Norvège. Ouais. Mais avec ma très petite expérience de voyage à vélo et mon petit niveau sportif, j'avais abandonné l'idée d'aller jusqu'en Norvège. Et surtout, prendre 3 semaines pour moi à partir voyager et ne pas travailler avec l'éducation que j'ai eue, pour moi, c'était un trop gros, une trop gros sortir de zone de confort. Alors qu'en fait, à arriver au bateau pour rentrer à la fin de mon voyage, c'était terrible de rentrer. J'avais qu'une envie, c'était continuer.
Pourquoi t'as pas pu continuer à ce moment-là?
Trop de blocages. Trop de blocages, blocage psychologique, blocage lié à mon éducation. Non, il faut que tu rentres travailler, il faut travailler, tu peux pas partir abandonner comme ça ta famille.
Et quand tu parles de relations sociales, donc là tu pars seul sur ton vélo, comment tu t'organises pour passer tes nuits? Tu faisais du couchsurfing ou du warm shower, hein, qui est aussi un réseau pour ceux qui voyagent en vélo, ou est-ce que tu avais ta tente?
Alors, je pouvais pas, en fait, avant ce voyage à vélo, j'étais pas une grande voyageuse, pas une grande aventurière. Pour moi, c'était inimaginable de dormir dans une tente. Donc, il fallait bien organiser les logements. Donc, effectivement, il existe Warm Shower, qui est vraiment une application super. Mais en plein mois de juillet, tout était pris. Il n'y avait rien de dispo. Donc, j'ai dû prendre Airbnb.
Donc, tu disais, le retour, tu avais qu'une envie, c'est de pas rentrer. Ouais. Une fois que tu avais fait cette mise en mouvement, bon, voilà, tu avais tes blocages qui ont fait qu'il fallait rentrer, comme tu disais, pour différentes raisons qui t'appartiennent. Mais souvent, quand on met les pieds dans cet univers du voyage et du mouvement, on n'a qu'une envie, c'est de repartir ou en tout cas d'avoir un nouveau projet derrière.
Oui, tout à fait. Alors, quand je suis rentrée, alors, j'ai été très anxieuse sur ma situation financière. Parce que c'est comme on disait, comment trouver, c'est la question, comment rendre ça viable. Donc je me suis dit, ok, j'ai presque dépensé tout mon argent, il faut absolument que je travaille pour pouvoir refaire un voyage. Et donc ma priorité d'abord, avant de me dire que je vais organiser un autre voyage, c'était trouver un boulot. Dans ma tête, forcément, oui, on rentre, on a envie, j'ai envie d'aller jusqu'au Japon à vélo, j'ai envie de faire l'Afrique à vélo, j'ai envie d'aller dans les pays baltiques à vélo, enfin voilà, c'est clair. Et je le ferai un jour, c'est sûr, je ne pourrai pas quitter ce monde sans faire ça. Mais donc, du coup, j'ai trouvé un boulot qui me correspondait pas, un boulot à 35 heures, qui m'a épuisée, énormément épuisée. Pendant ce travail, j'étais contente de mettre de l'argent de côté. Et donc, je m'étais dit, je vais pas pouvoir faire de grands voyages encore. Et là, je me suis dit, je vais visiter la France. Parce que en rentrant de Suède, je suis partie quelques jours après en Bretagne pour me reposer de mon voyage à vélo. Et c'est la première fois que je découvrais la Bretagne. Et je me suis dit, en fait, la Bretagne, c'est magnifique. C'est splendide à côté de la Suède où j'étais. Finalement, pas besoin d'aller jusqu'en Suède pour découvrir qu'en fait, dans son propre pays, on a quand même des coins merveilleux.
Souvent, le voyage questionne aussi son rapport au temps, mais son rapport à l'argent. Tu disais, tu es rentré pour bosser. C'est intéressant de voir aussi ceux qui font le choix. Donc, tu parlais avant de minimalisme, d'essayer de réduire au maximum ses besoins matériels. Donc, réduire ses dépenses, une sorte de sobriété. On parle de sobriété heureuse dans le mouvement Colibri. Tu parlais des Colibris avant. Donc, cette notion d'argent, je rencontre aussi des voyageurs qui ont pris la parole dans ce podcast. Je pense à une Strasbourgeoise qui est partie 18 mois en roller à faire le Tour de France sans argent. On a un Colmarien qui a fait le Tour du Monde sans argent. Donc, il y a aussi ça qui est intéressant à découvrir, c'est que quand on voyage, on peut complètement reconsidérer son mode de vie et trouver d'autres manières de vivre. Et l'argent, qui des fois est un blocage, qui est une peur, la peur de ne pas, la peur du manque, on se rend compte qu'en mouvement, il y a une forme de magie des fois qui opère où on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent. Je pense aussi aux pèlerins sur Compostelle où il y a plusieurs manières de le voyage questionne son rapport à l'argent et se rend compte et nous permet de rendre compte que il n'y a pas besoin de beaucoup.
Oui, c'est vrai. Oui, totalement. C'est exactement la vision, que j'apprends petit à petit. Je me suis dit l'été dernier, je me suis dit ok, j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup d'argent, comment je vais faire avec mon vélo? Et donc je me suis mise grâce à mon entourage à apprendre à bivouaquer, parce que pour moi c'était le danger en fait. J'ai pas grandi, on m'a pas appris à être une aventurière. Donc là aussi un peu les questions d'émancipation. D'ailleurs ce voyage à vélo m'a appris à m'émanciper. Et donc je me suis dit cet été je vais déjà faire du bivouac, apprendre à faire du vélo bivouac pour dépenser moins d'argent. Et je l'ai fait en France et avec le train et c'est juste magique.
Et Charlotte, on va peut-être terminer sur donc le lien. On va revenir à ta maladie. Est-ce que donc le vélo, la sclérose, est-ce que tu sens vraiment une amélioration ou est-ce que on voit un ralentissement? Je sais pas. Mais comment est-ce que ça impacte tes choix de vie aujourd'hui sur ta maladie, sur ton présent et ton futur?
Clairement, ça a un impact incroyable. Le voyage à vélo, les bivouacs, dormir dans la nature. A montré qu'en fait j'ai besoin d'être au contact de la nature pour me sentir bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter la ville, de vivre à côté de la forêt avec des poules, me nourrir des œufs des poules et voilà, et me lever le matin et voir les montagnes et pas le tram qui passe dans ma rue. Et je me sens beaucoup mieux, j'ai pas le sentiment de me soigner parce qu'il y a encore les symptômes comme la fatigue, etc. Mais je le vis beaucoup mieux, je l'accepte mieux. Parce que quand on est au contact de la nature, la vie est ralentie. On est obligé de prendre le rythme de la nature. Et donc forcément, quand on prend le rythme de la nature, ben, on s'écoute plus. Et donc, plus s'écouter, c'est mieux aller.
Plus s'écouter, c'est mieux aller. Belle conclusion, merci. Merci à toi, Charlotte.
Merci à toi également.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.